Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Marc-Niance, on se retrouve au plan sur B devant des montagnes, nos Alpes, hein, à nous, elles vous semblent quoi, petites, aussi majestueuses que quand vous les avez quittées pour le grand Himalaya?
Ah, les Alpes, elles sont belles. Elles sont belles ici. Et l'Himalaya, ce que ça a quand même de différent, c'est que quand tu es au fond d'une vallée, tu es à 5000 mètres d'altitude. Puis tu regardes en haut, c'est grand, et ces sommets à plus de 8000, c'est juste incroyable. Les vallées ont des amplitudes qui sont tellement grandes. Il y a vraiment cette notion de grandeur dans l'Himalaya qui moi, m'impressionne.
Vous avez fait combien de kilomètres d'un bout à l'autre?
Alors, d'un bout à l'autre, ça a été 1700
km. 1700 km en 99 jours, hein, j'ai vu ça.
Ouais, nous, on l'a fait en 99 jours. Il est donné normalement en 140-150 jours.
Mais il y avait la volonté d'aller vite?
Non, il y a eu la nécessité d'aller vite. Il y a eu la nécessité d'aller vite pour deux raisons. La première, c'est que j'avais un petit peu mal calculé le temps que ça nous prendrait. J'avais fait des moyennes où je me suis un peu trop optimiste. Et j'avais mon fils qui, le 18 juillet, avait ses 30 ans. Et il fallait absolument que je sois là. Donc c'était non négociable de ne pas arriver à son anniversaire.
Pour cet anniversaire.
Et puis, il y a aussi la météo. Tout d'un coup, tu apprends qu'il y a un front de neige qui arrive et que si elle arrive, c'est fini. Là, hein, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a la haute route de ce Great Himalaya Trail et que je me suis lancé sur la haute route et que la haute route, c'est vrai, c'est 23 cols à plus de 3000, à plus de 5000 mètres d'altitude. Il y a des cols à plus de 6000 mètres d'altitude. Et donc, il y a une difficulté supplémentaire qui fait qu'il y a des passages qui sont vraiment compliqués et difficiles et que si tu te fais prendre par la neige et ben tu dois te rabattre sur la basse route, c'est souvent 100-150 km de détour et ensuite remonter. Ça veut dire que le timing, je pouvais pas le réaliser, et puis ça voulait aussi dire que j'étais plus sur la haute route. Et mon challenge, moi j'aime bien, alors quand je m'engage dans quelque chose, c'est vraiment de le faire à fond. Et c'était vraiment la volonté
c'était
de...
C'était la haute route, avec le climat, hein, comme en mer, j'évoquais la mer, en montagne, on doit être modeste vis-à-vis de ça. Et puis dans l'Himalaya comme ici, le climat est un peu perturbé, j'imagine. Bref, il n'a pas neigé quand il devait, et il a neigé quand vous y étiez.
Oui, alors c'est ça. L'année passée, normalement il neige janvier-février, il n'a pas neigé l'an passé, et tout est tombé au mois de mars. Donc les cols qui normalement deviennent praticable au mois de mars, ils étaient complètement enneigés et on a fait des passages avec les cols, avec la neige jusque sous les épaules parfois. Et ça a beaucoup ralenti le rythme et ça a accru la difficulté.
Mais ça veut dire que quand on peut, on va plus vite, du coup, on essaie de compenser. Vous avez couru parfois?
Marcher vite, on va dire.
Marcher vite. Combien de kills par jour? Enfin, alors évidemment, c'est très inégal, j'imagine, hein, suivant que ça monte, ça descend.
Alors ça se comptera plutôt en heures par jour. Ouais. Hein. C'était une moyenne d'au minimum 8 heures à 12 heures de marche par jour, donc plus 2 heures d'arrêt ou de pause. Donc des journées de 10 à 14 heures, mais 8 à 12 heures de marche.
Mais et le bivouac, toujours en tente? J'ai vu des photos de tentes. Parfois, il y a des hôtels, des loges.
Il y a 30% du chemin se fait en autonomie totale, sur des segments comme ça. Et puis autrement, tu peux dormir chez l'habitant, dans des villages, heureusement. Et autrement, il y a aussi...
Une douche de temps en temps.
Ouais, elles sont rares. Et autrement, tu rejoins des régions où il y a les treks qui sont plus populaires, comme la région de l'Everest. Et là, tu peux dormir dans des loges. Avec douche chaude.
Ouais. Bon, parlons-en un peu du tourisme. Hein. On a ces images qui nous arrivent de l'Everest avec ses déchets, ses camps, avec une telle abondance de touristes qui viennent là pour ce moment d'escalade de l'Everest. Alors, vous, c'est un chemin, hein, c'est pas, vous ne les faites pas, les sommets, mais ce tourisme un peu exacerbé qu'on peut voir au Mont-Blanc, hein, y a pas besoin d'aller très loin, vous l'avez perçu?
Oui, parce qu'en franchissant l'Himalaya d'est en ouest, on traverse toutes ces grandes régions et principalement aussi les régions touristiques. Mais curieusement, c'est celles qui sont le plus, gérées localement en termes de déchets. Donc, c'est pas celles qui sont les plus polluées. Il y a là, tu vas trouver des poubelles, tu vas trouver aussi des initiatives où on donne des déchets aux touristes pour qu'ils redescendent avec. Régulièrement, ben, c'est des régions qui sont aussi beaucoup exploitées avec des hélicoptères. Donc les hélicoptères sont jamais à vide. S'ils montent quelque chose, s'ils manquent du personnel, ils redescendent des poubelles. Mmh. Donc les régions les plus touristiques ne sont pas forcément les plus polluées. Par contre, et c'est vrai, moi ça, mon cœur a été vraiment touché certaines fois, c'est de me retrouver à plus de 5000 mètres d'altitude, passage de col où il n'y a personne qui va, sauf les Népalais, et de trouver les plastiques dans les buissons, les papiers, les déchets de plastique dans les rivières, les torrents, à la sortie des villages, parce que le plastique a envahi les villages, mais ils ne savent pas quoi faire des plastiques. Donc pour eux, c'est comme des fleurs dans la nature, ils les laissent. Et la gestion et la culture des déchets auprès des habitants n'existe pas. Et là, oui, alors il y a
des tristesses.
Hein. Il y a des grandes tristesses. Ouais.
Bon, vous avez une vie un peu particulière hein, avant les aventures de la soixantaine. Vous êtes parti jeune, hein, alors c'était encore la mode, on va dire. Vous étiez sur la fin du trend 68-art, vous êtes parti dans les années 80, hein, c'est ça ?
Je suis parti en 87,
oui. Ouais, 87 pour ce qu'on appelait un tour du monde, mais qui vous a déjà amené un peu vers l'Inde, vers l'Himalaya, vers l'Asie du Sud-Est ensuite. Il y avait une volonté un petit peu mystique.
Ouais, quand je suis parti à 26 ans, en fait, j'ai quitté la Suisse. C'était dans le but de faire connaissance avec moi-même, de voir si je peux éventuellement développer quelques débouchés économiques, rencontrer des gens pour faire un peu d'export-export. Et puis c'était pour voir le monde, le vaste monde. Et c'est vrai, j'ai commencé avec l'Inde. Je suis allé un peu au Népal. Et ensuite, je suis arrivé en Thaïlande et là, j'ai été coincé, on va dire, par quelques rencontres incroyables qui font que pendant 2 ans, j'étais moine bouddhiste dans un monastère à apprendre qui j'étais, en fait, ou ce que je n'étais pas.
Bon, ça, alors ça, c'est une expérience de jeunesse. Est-ce qu'elle vous poursuit encore ? Est-ce que ce voyage incroyable que vous avez fait en 2023 au Himalaya, il y a quelque chose aussi d'aller se chercher soi-même et de...
Totalement.
Ouais.
Totalement. Déjà d'être présent dans une autre culture, là où on ne parle pas notre même langue, et dans les montagnes, dans un environnement qui n'est pas ma nature à moi, comme j'aime dire, je passe plus de temps à la plage qu'en montagne, même si je vis sur les collines du Jura. Et de me trouver comme ça dans la contrainte aussi, et surtout l'inconfort. Je trouve qu'on apprend énormément sur soi dans l'inconfort. Et ce Great Himalaya Trail, en termes d'inconfort, il m'en a apporté, mais sur un plateau toutes les heures.
Bon, les pages de littérature sont pleines de moments où on jouit d'une gorgée d'eau, hein, quand la soif est très grande, d'un tout petit minuscule confort qui nous semble dérisoire ici,
ouais.
Et qui est merveilleux à 6000 mètres, j'imagine. Un paquet de biscuits, que sais-je.
Ah, absolument, ouais. Il y a des petites choses qui prennent des dimensions totalement différentes. Mais c'est aussi de vivre avec la douleur du froid, la morsure du froid, les possibles engelures, les nuits sous tente à moins 26 degrés dans le vent, de ne pas dormir et de me dire le lendemain je vais quand même marcher 12 heures, de gérer des fois les frustrations parce que mon corps n'était pas plus performant que ça, et de me dire mais Marcus tu vas marcher un peu plus vite là, et ben non, ça n'allait pas plus vite.
Non, là, on l'a pas dit, vous n'étiez jamais seul, hein. Il y a avec vous un guide.
Il y a toujours un guide et au moins un porteur.
Ouais.
Et puis selon les sections, il y avait jusqu'à 2 guides et 8 porteurs. Et durant le chemin, j'ai aussi rencontré un autre marcheur qui venait d'Iran et puis qui était un peu sur le même chemin, mais qui n'avait pas toute l'infrastructure avec laquelle j'avais. Et au Népal, pour pouvoir franchir les grands cols, c'est obligatoire, c'est légal. Il faut avoir des guides. Et comme il n'avait pas le budget pour ça, je lui ai dit, mais viens avec. Et on a marché ensemble aussi.
Le fameux cliché qu'on imagine de vous dans le dur et le guide tranquillou.
Alors c'est pas juste un cliché, c'est une réalité totale.
Hein, ouais.
Alors de marcher avec des gens qui sont nés dans l'Himalaya, avec des gens qui ont grandi, vécu et...
Bon, qui mettent leurs poumons à 6000 mètres tous les jours de leur vie, hein, enfin 5000 en tout cas, donc ils sont habitués à ce régime-là. Quoi.
Alors ce qui pour moi était vraiment une marche d'envergure, c'est de la promenade pour eux, quoi. C'est sûr. Et...
Le contact est possible avec le guide, évidemment. Vous avez passé plusieurs mois. Hein. Enfin, il y avait une alternance entre deux frères. Vous m'avez expliqué ça, qui faisait le guide chacun son tour. Mais avec les populations locales, vous parliez de langues étrangères. J'imagine que vous n'avez pas appris le népalais avant de partir. Donc, le contact est possible ?
Alors, il est possible avec le guide, parce qu'ils ont un anglais qui est suffisamment bon pour échanger. Avec les porteurs, pas. Les porteurs parlent que le népalais. J'ai tenté d'apprendre le népalais pendant la marche, mais je dirais qu'il me manquait d'oxygène pour mémoriser la langue. Et du coup, les échanges avec eux étaient succincts. Bon. J'ai eu plus d'échanges avec la montagne, on va dire.
Marc Niers, moi, j'ai trouvé votre aventure assez touchante, pour ça qu'on se rencontre. Parce que, voilà, des aventuriers qui vont faire... Alors, à des degrés divers de folie, de professionnalisation de l'aventure, on va dire, qui vont médiatiser leur aventure. Et on en a tout le temps. Hein. Ça, c'est devenu, c'est plus devenu exceptionnel du tout. On n'est plus au début du XXe siècle où on découvrait le monde, ou au XIXe. Vous n'avez pas prévu, en fait, que ça pouvait être une histoire à raconter. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Vous n'avez pas fait de crowdfunding, vous n'avez pas prévu des conférences, vous n'avez pas prévu de vidéos. Vous avez documenté ça sur vos réseaux sociaux quand vous le pouviez, j'imagine, mais ouais. Voilà, ça vous est venu après de se dire, mais enfin, finalement, j'ai fait un truc quand même incroyable. Ouais. C'est assez touchant, ça, je trouve, dans ce monde où il faut finalement chiffrer ce qu'on va vivre, quoi.
C'est vrai que cette aventure, c'était un rêve au départ, et quand je l'ai terminé, c'est resté comme une espèce de rêve aussi. J'ai eu des périodes où j'ai risqué ma vie, c'était pas prévu comme ça et de manière aussi intense. J'ai eu des moments où j'étais au bout de ce que je croyais pouvoir faire. J'ai appris, quand je suis arrivé au bout, que j'étais le premier Suisse à l'avoir fait.
D'une traite.
Le 18e en 15 ans. 18e personne en 15 ans. Je me suis dit, waouh, j'ai quand même fait quelque chose qui n'était pas rien, quoi. Mais c'est resté flou. J'arrivais pas à me dire j'ai fait ça. J'avais plutôt envie de dire ça m'a fait. C'est aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que j'ai fait ça aussi. Et la montagne m'a fait, l'Himalaya a fait ce que je suis aujourd'hui. L'Himalaya m'a donné cette autonomie dans mon travail maintenant. J'ai dû redéfinir mon travail parce que l'entreprise a super bien fonctionné. Mes collaborateurs ont super soutenu ma démarche. Donc il fallait que je réinvente mon job. Et puis petit à petit, en parlant, petit à petit en montrant des photos, ce que je sens c'est que je m'approprie cette expérience. Mais non seulement ce que j'ai comme élan, ce que j'ai envie de faire dans ce partage, en fait, c'est d'amener les gens à chacun à revoir ses rêves, à rêver, à se dire que c'est possible. Même si le rêve, c'est de rencontrer la voisine, tu sais.
Oui, on n'a pas besoin de faire 1700 bornes à 5000 mètres d'altitude, on est d'accord.
Quelque part, on a tous son Everest. Et son Everest, c'est peut-être de rencontrer la boulangère. Ou je sais pas. Et puis...
Il y a une drogue, quand on a fait son Everest, on a besoin d'un nouvel Everest ?
Non, je crois pas en termes d'intensité. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que à la fin de ce rêve, j'étais dans un grand vide, une espèce de néant. Peut-être dite déprime, hormonale aussi, parce que le corps est tout le temps sur l'adrénaline, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, quand le trek était terminé, la seule chose que j'avais fait, c'était de grimper 3 étages dans l'hôtel. Et après...
Et à bout de souffle, après les 3 étages.
Ouais, à bout de rêve, en fait. Puis il y a ce moment où il y a le néant, puis tout d'un coup, il y a des nouveaux rêves qui viennent en place.
Bon, très rapidement, parce qu'on est à la fin de cet entretien, Marc Niers, vous voulez continuer, en fait, cette route, hein. On a bien compris qu'elle ne se limitait pas au Népal. Vous avez envie de la faire, alors là, par étapes, pour le coup, hein, mais dans les autres pays, rapidement.
C'est vrai. Alors, rapidement, je veux m'offrir un mois de marche par année. Donc, continuer à avoir cette disponibilité. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer ce Great Himalaya Trail en traversant le Bhoutan, peut-être cet automne. Et puis après, en faisant des itinéraires dans l'Inde. Mais de rester accroché, en fait, à ça, pas comme quelque chose qui a été fait et ensuite c'est fini, tu sais. Que ce soit plutôt la première pierre de cette deuxième période de ma vie à 60, pour aller encore revivre et maintenir aussi en condition physique qui me permet de le faire.
Merci à vous, Marc Niels.
Et qu'on rêve tous beaucoup. Merci à toi, Florent.